La CAB, la comète à la banane, l'émission cabossée qui soigne les cœurs, les corps et les esprits. Sur www.libradio.org, la radio hospitalière.
Voilà, nous voilà de retour en direct depuis le pavillon bleu en compagnie des candidates et des candidats des trois listes citoyennes dont on a fait, pour lesquelles nous avons fait le tour de table. Nous venons de faire le tour de table. Alors maintenant, nous allons effectivement refaire un tour de table avec, par liste cette fois-ci, les arguments moteurs, j'ai envie de dire, du programme de chacune de ces listes et chacune d'elles. Bien entendu, n'oubliera pas de mentionner le site internet sur lequel les personnes, les auditrices et auditeurs pourront aller compléter les informations qu'elles solliciteraient. Peut-être avant d'entrer vraiment en matière, j'aurais voulu avoir l'opinion de chacune de ces listes concernant deux ou trois arguments très triviaux concernant vraiment le fonctionnement même de cette élection. Peut-être revenir déjà sur le quorum, ce quorum de 7%, parce que ça, c'est, j'imagine, quelque chose que vous avez certainement en commun. En tout cas, peut-être un regard critique sur ce quorum ou pas. Donc, un quorum, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'en dessous de 7% des suffrages exprimés en faveur de la liste, eh bien, cette liste ne serait pas représentée au Grand Conseil. Alors ça, ce serait un premier argument. J'énonce mes deux autres arguments que l'on pourrait évoquer tout de suite pour voir si vous êtes preneuse et preneur ou pas. Le deuxième, ce serait sur le financement et la transparence, puisqu'on le sait, c'est compliqué de faire une campagne lorsqu'on a des moyens limités. Et c'est certainement le cas, les moyens limités, lorsque l'on est issu de la société civile et non pas un appareil, je veux dire, ou un appareil politique qui a pignon sur rue et qui est là depuis une éternité et qui a d'autres ressources et des carnets d'adresses avec. Et puis peut-être le troisième argument, c'était concernant la parité également dans les candidatures. Alors nous avons ici typiquement une liste qui ne touche pas du tout la parité, c'est la liste femmes, et c'est justement ça qui est intéressant, c'est d'avoir une liste justement de femmes et code de femmes pour cette élection. Mais peut-être, j'imagine que autour de cette table, la plupart d'entre nous, d'entre vous, est extrêmement sensible à la composition du Grand Conseil, la composition passée. Alors, je dois dire que ça, j'ai pas fait le travail, j'ai pas regardé d'où on vient, mais j'imagine que la proportion, elle doit pas être extrêmement paritaire, justement.
Alors,
peut-être qu'on reviendrait là-dessus. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, je ne sais pas, est-ce que vous auriez envie de commencer par nous dire quelques mots concernant le quorum et qui aurait envie de prendre la parole pour commencer?
Le quorum, il faudrait le supprimer, c'est antidémocratique.
Voilà, à chaque fois qu'on prend la parole, c'est peut-être bien de rappeler, c'est la liste 8.
Alors, c'est la liste 8. Pour Genève, je sais qu'on demande un quorum à 3%, ça serait magnifique. Moi, personnellement, je pense qu'il faudrait le stopper. Enfin, il devrait être à zéro, c'est antidémocratique, ce quorum.
D'accord, donc en tout cas, pour la liste 8, dans votre programme, on considère que le quorum est non seulement inutile, mais qu'il est même nuisible.
Alors, dans la liste 8, on a un avantage, c'est qu'on n'est pas forcément d'être d'accord entre les différentes personnes qui composent cette liste. Je rejoins Brigitte sur son raisonnement. Effectivement, à Genève, le quorum de 7% est un des plus élevés du pays. Effectivement, il serait souhaitable de baisser le quorum, mais je ne pense pas que de le mettre à 0%, ce serait quelque chose de possible, puisque à ce moment-là, on n'a plus besoin d'élection, presque. Je pense que un gouvernement doit pouvoir prendre des décisions, et je crois qu'un minimum de 3% est quelque chose de tout à fait possible. Moins, je ne sais pas.
Ça, c'est une position individuelle ou c'est la position qui recouvre la liste?
Je pense que c'est une position pas forcément individuelle, mais qui est de la liste, puisque là-dessus, on a des discussions. On n'est pas du tout dogmatique. Et puis, on a le droit de discuter entre nous pour arriver à des décisions. Mais je pense qu'effectivement, il faut baisser ce quorum. Effectivement, il ne faut pas le mettre trop bas non plus. Et j'aimerais aussi ajouter quelque chose. C'est que beaucoup de gros partis actuels était pour la baisse du quorum à l'époque. Ce n'est pas une discussion qui est nouvelle. Et une fois que ces partis ont 7, 14, 21, 28 députés, ils ne veulent plus la baisse des cornes.
Évidemment. D'accord. Donc il y a des attitudes comme ça, fluctuantes.
Voilà, je passe le micro à Jean-Claude.
Merci.
Oui, juste pour dire que par rapport à la liste, ce qui peut paraître un petit peu surprenant, c'est que d'un côté, on ait quelqu'un qui dise non, plus de quorum, puis d'autre, puis quelqu'un d'autre qui dise oui, ben pourquoi pas 3%. C'est vrai que si on est pour la liste pour Genève, si on est venu à la liste, c'est qu'en fait, on n'est pas des petits soldats qui marchons tous au même rythme, au pas de loi, direction du Grand Conseil. Donc, on garde nos sensibilités, nos perceptions. Ça n'empêche pas que sur le fond, on est tous d'accord. Ça veut dire soit le baisser, soit l'enlever. Mais c'est vrai qu'on essaye de trouver le plus petit dénominateur commun. Puis c'est vrai que sur la liste, je crois qu'on était à 3%. Mais c'est vrai que si on pouvait l'enlever, pourquoi pas. Mais voilà, je voulais juste rajouter ça, sachant que pour atteindre un quorum à 7%, d'une part, il faut avoir un budget qui est énorme, puis c'est vrai que c'est les grosses formations politiques qui les ont, et puis il y en a 3 ou 4 des grosses formations politiques, le reste c'est rédhibitoire. Puis si on veut atteindre le Grand Conseil, ben il faut engager des moyens qui sont des moyens de plusieurs centaines de milliers de francs. On voit d'ailleurs que c'est quasiment ça donne un peu envie de vomir quand on voit le fric qui est dépensé dans cette campagne ces années pour faire voler des bonhommes dans les airs. Ça fait un peu sourire, quoi. Voilà.
Alors on va y revenir sur l'argent des campagnes, on va y revenir. Passons à la liste 7, liste femmes. Concernant le quorum, avez-vous une position du coup commune ou là aussi, eh bien c'est quelque chose qui se discute et qui fluctue un petit peu au sein de votre groupe?
Alors, ce qu'on peut dire par rapport à la liste femmes, c'est qu'on a des positions très claires et un programme très clair en ce qui concerne les sujets liés aux femmes. Pour les autres sujets, pour dire vrai, on n'a pas eu le temps de tous les discuter et de tous les voter, mais je pense qu'on peut tout à fait donner notre opinion. Je pense en effet qu'un quorum à 7% reflète une façon institutionnelle de faire de la politique, que comme vous le disiez tout à l'heure, les gros partis, à partir du moment où ils commencent à avoir un nombre établi de sièges, auront beaucoup de peine à considérer la remise en question en fait, du quorum. Sauf erreur, d'ailleurs, je crois que c'est Pierre Gauthier qui le disait dans son visage de campagne, la constituante, il y a quelques années, a fonctionné avec un quorum à 3%, et ça a très très bien fonctionné. Donc ça, c'est tout à fait une chose qui pourrait, à mon avis, si on veut que la politique évolue vers plus de participation citoyenne, et je pense que c'est la préoccupation qu'on a en commun aujourd'hui, il est absolument nécessaire que le quorum soit diminué. Et 3%, ça me paraît être un chiffre qui pourrait tout à fait être réalisable pour tous.
D'accord, c'était Valérie Langer pour la liste femmes qui s'exprimait. Quelqu'un d'autre pour la liste femmes ou cela recouvre à peu près, voilà, ça recouvre à peu près ce que vous voulez dire. Alors, liste 13.
Alors, la liste 13, égalité, nous, égalité, équité. Alors, on a ce point en commun, ce point en tout cas en commun avec vous deux, vous tous. Nous, on aimerait supprimer le quorum. Donc, on t'invite à nous rejoindre quand la campagne est terminée. Pour être voilà. Oui, parce qu'effectivement, on s'éloigne de l'élection quand on baisse un quorum. On devient de plus en plus représentatif de la population, des citoyens et des citoyennes qui sont là et qui n'osent pas prendre possession de leur pouvoir, en fait. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est encore aller plus loin, c'est à un moment donné de tirer au sort les parlementaires, comme dans la démocratie athénienne, en 500 avant Jésus-Christ jusqu'à 300 avant Jésus-Christ. Ça a duré 200 ans. Et là, les citoyens. Je reviens. Effectivement, il y a des choses à améliorer parce que les femmes n'étaient pas considérées comme des citoyens et les esclaves non plus. On pourrait juste améliorer ça en tout cas. Mais prenez partie prenante, ça ne va pas. Se sentez responsable des lois, se sentez encore plus engagé que nous qui devons voter déjà tous les 3 mois. Était réellement acteur du fonctionnement de la société. Je pense que c'est une bonne chose de rendre le pouvoir aux gens, de faire en sorte qu'ils se sentent capables et responsables de leur vie, et de ne pas toujours déléguer les choses, les décisions à des gens qui sont politiquement, disons, des professionnels de la politique, qui vivent de ça et qui évidemment ne veulent pas baisser le quorum parce que ça freinerait leur accès au poste de pouvoir. Donc en tout cas, là-dessus, on est d'accord, plus ou moins.
Alors, Gérard, tu voulais compléter, Gérard Chabert?
Justement, très bien. J'aimerais compléter en disant, en rappelant aux citoyens actuels qu'actuellement, on a ce quorum et que pour jouer le jeu de la politique actuellement, il faut absolument, par exemple, pour ceux qui voudraient prendre une liste vierge, mettre un numéro de liste en haut, hein, la 13, par exemple. Et puis, si on n'écrit pas ce numéro, on perd les suffrages de liste. Et c'est en mettant 3 personnes, par exemple, on n'a que 3 centièmes de ce qu'on vaut en tant qu'électeur. Donc, c'est très important pour ceux qui prennent une liste vierge et pas une liste compacte de noter en haut un numéro de liste.
Tout à fait. Merci de la précision. Effectivement, Gérard Scheller pour la liste 13. Alors, Valérie Langer pour la liste femmes, tu voulais réagir aux propos de Chloé?
Je voulais juste rajouter, parce que tu parlais de la démocratie athénienne. En fait, il faut savoir qu'en termes de modernisation de la démocratie, l'Islande, tout récemment, vient d'élire son nouveau parlement et les parlementaires ont été tirés au sort. Et ça a été une grande révolution. Et voilà. Et puis, on peut aussi prendre la liste vierge et rajouter la liste 7.
C'est intéressant de savoir que le tirage au sort donc, est déjà effectif dans un pays comme l'Islande.
L'Islande qui a en fait traversé une énorme crise financière, qui a géré les choses de façon très différente de ce qu'on l'aurait fait dans nos pays à nous. Et le résultat de tout ça, ça a été le gouvernement qui a été mis à la porte et la réélection du Parlement par tirage au sort.
Absolument.
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 Prendre exemple également.
Oui, tout à fait. Alors, si on a compris, pour faire la synthèse, oui, encore.
Oui, je voulais rebondir aussi sur les propos de Chloé, en fait, où elle disait que c'est intéressant, le tirage au sort, enfin, cette... truc athénienne là du fait que
aujourd'hui on fait une agora citoyenne,
voilà, du fait que les gens du coup se sentaient plus investis s'ils étaient tirés au sort et qu'ils devaient participer à la politique, donc je rabats un peu la couverture sur moi, mais sur la précarisation et la précarité, c'est que quand les gens sont perdus dans des méandres où ils se demandent comment ils vont pouvoir manger, comment ils vont pouvoir payer leur loyer, comment ils vont pouvoir finir le mois, etc., et ben ils n'ont plus la force, ils n'ont plus l'énergie de s'investir de manière citoyenne. Et ça, c'est bien dommage.
D'accord. C'était donc Corinne Imbercet qui parlait pour la liste 8 et Joël Flax. Dis-nous.
Oui, merci. J'aimerais juste préciser une chose. Tout le monde ne sait pas peut-être ce que c'est qu'un quorum ou que le quorum de 7%. Donc, pour qu'une liste ou un parti passe, il faut un minimum de 7% des voix. Ça veut dire que sur 100 000 votants, il faut que 7 000 personnes votent pour une liste. Et ça veut dire que sur une liste, il y aura 7 députés. Donc, si on a un quorum de 3%, sur 100 000 personnes, il faudra 3 000 voix pour avoir 3 députés sur une liste ou un parti. Et si on vote 0%, il faut m'expliquer. Donc, voilà, c'est juste une précision pour que les auditeurs comprennent ce que c'est que le quorum, parce que ce n'est pas toujours évident.
Absolument. Précision encore, Gérard Scheller.
Oui, juste pour... en fait, c'est 1%. C'est vrai qu'en dessous de 1%, il n'y a personne. Donc, 1%, ça permet d'avoir une personne de cette liste-là. Et c'est évident qu'après, eh bien, un certain nombre de listes vont se retrouver et puis, quelque part, agir ensemble de commun. Je pense que là, on est en train de montrer, du reste, aujourd'hui, que sur une série de plans, on a des valeurs communes et je trouve intéressant d'être regroupé de cette façon parce que je pense qu'on a des valeurs communes en majorité.
D'accord, c'est Delphine Frodo pour la liste 13 qui commente.
Oui, c'était juste pour revenir sur cette histoire de tirage au sort. Il s'est avéré que dans de nombreux domaines, lorsque des personnes étaient investies par le tirage au sort d'une mission, se métamorphosaient. Et en fait, donner vraiment le meilleur d'elle-même. C'est-à-dire souvent, on dit oui, mais le tirage au sort, beaucoup de gens ne sauraient pas, ne connaissent pas les thèmes, etc. Et en fin de compte, il s'avère que c'est souvent là qu'on a les meilleurs résultats. Parce qu'une personne qui se sent investie par ce tirage au sort, du moment où elle l'accepte, il faudrait peut-être laisser le choix, justement, de refuser l'élection ou pas. Mais du moment où on l'accepte, on se sent investi. Et on n'a pas besoin d'avoir fait l'université ou d'être un professionnel de la politique pour vraiment cerner les sujets et aller au fond. Et je pense que justement, on pourrait vraiment avancer ensemble avec des citoyens et avec ces tirages au sort. Mmh.
Attention, juste de ne pas trop écarter, puis, s'écarter du sujet.
Oui, c'est vrai qu'on digresse un peu, mais ouais. Je trouve que vas-y, Chloé, s'y prête. Pour rebondir sur ce que disait Corinne, à propos du fait qu'on est vraiment la tête dans le guidon, métro, boulot, dodo, c'est le système qui est à remettre en question dans son ensemble, à mon avis. Et avec ce qu'on peut proposer, je pense, les trois listes ici, on a des pistes pour justement changer cet état de fait. Absolument. Donc on reviendra dessus, mais... À mon avis, il y a tout un changement, tout un balayage, toute une restructuration de la vie sociétale.
Mais d'ailleurs, on s'aperçoit que dans les trois, s'il y a des choses communes, et il y en a dans les programmes des trois listes, c'est ça, c'est qu'il y a un questionnement essentiel de fond. Et c'est pour ça que nous également, on pensait, ayant vu vos programmes, qu'il était beaucoup plus intéressant pour nous, en tout cas du point de vue du citoyen, d'inviter des listes citoyennes plutôt que des partis politiques qui, finalement, continuent de reproduire de réforme en réforme, des funestes choses que l'on connaît déjà un peu par cœur. Est-ce que vous voudriez bien... Après, bien entendu, qu'on reviendra. Alors, j'ai le flax pour conclure sur cette histoire de quorum. Et puis ensuite, on arriverait en quelques mots là aussi, parce qu'après, on fera le tour de table des argumentaires. Hein. Mais ensuite, nous parlerions en quelques mots du financement et de la transparence des campagnes. Mais j'ai le flax, à toi la parole.
Oui, j'aimerais encore dire une dernière chose concernant l'Islande. Donc l'Islande est un pays qui compte 300 000 habitants avec une densité d'habitants de 3 habitants au kilomètre carré. Donc c'est vrai que c'est un pays très peu peuplé et je peux comprendre peut-être que sur une distance pareille, les gens sont très, 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 très aimants de leur terre et puis très conscients de leur bonheur peut-être d'habiter dans un beau pays comme l'Islande hein, qui a des tas de merveilles. Ceci dit, je vois mal une ville surdensifiée comme Genève, avec des citoyens qui sont tirés au sort. Et on vient, je pense que c'est vous qui venez de dire ça, que souvent des gens qui auraient pu être tirés au sort, on n'a pas besoin de faire l'université, oui, Delphine l'université, etc. Je peux aussi vous dire que se présenter à des élections, on n'a pas non plus
de diplôme à présenter.
De faire de diplôme ni de compétences particulières. Et peut-être que malheureusement, il faut certaines compétences, en tout cas humaines, avec une éducation citoyenne et puis s'oublier soi-même parce qu'on représente toute une population qui attend beaucoup de choses de nous. Et je veux rejoindre ça aussi sur les 7%. C'est qu'aujourd'hui, ces gros partis, ces multinationales de la politique, qu'on peut les appeler comme ça, ont volé, si on veut, cette possibilité aux petits partis, aux petites listes, d'avoir leur mot à dire et peut-être de pouvoir modifier la politique actuelle que je considère ou que la liste considère comme mauvaise et insuffisante pour la population.
Merci Joël Flax pour la liste numéro 8. Alors si vous êtes d'accord, passons au deuxième point en faisant un tour de table rapide, concis, sur le financement et la transparence des campagnes politiques. J'imagine que vous-même êtes touché par cet argument, puisqu'effectivement, nous avons ici des listes issues de la société civile et donc avec, comme on l'a dit tout à l'heure, avec sans justement un appareil autour qui soutient, qui finance et qui a un carnet d'adresses. Alors qu'en est-il ? Est-ce que déjà entre vous, vous savez... Est-ce que vous vous renseignez les uns sur les autres sur qu'est-ce que ça coûte, comment est-ce qu'on va tourner, est-ce qu'on va réussir à se rembourser? Est-ce que ça, c'est des questionnements qui surgissent très rapidement? On va commencer comme d'habitude, si ça vous va, on fait comme ça, on commence par la liste 8.
Alors pour la liste pour la liste pour Genève, c'est vrai qu'on a regardé un petit peu où on se situait par rapport à l'ensemble des groupes politiques qui se présentaient au Grand Conseil. Et puis, c'est vrai qu'on est quasiment sur la dernière marche vers le bas. C'est-à-dire qu'on a un budget pour cette campagne, je crois qu'il est de 30 000 francs. Donc, c'est ridiculement bas par rapport à ce qu'on peut faire. Mais en même temps, je me dis, 30 000 francs, c'est quand même pas rien Je veux dire, ça permet de faire un certain nombre de choses. Et puis, qu'est-ce qui compte dans un débat politique ? C'est pas les moyens qu'on a et qu'on peut mettre pour acheter des pleines pages de la Tribune, pour acheter des pleines pages du GHI ou je ne sais pas quoi. C'est en fait les idées des gens. C'est pas une idée qu'il faut, mais c'est un certain nombre d'idées. Et je pense que là, la liste pour Genève, on a un certain nombre d'idées qui sont des idées certaines nouvelles et qui permettent aussi de faire une différence par rapport à d'autres. Le budget, finalement, c'est qu'un pis-aller. Ça permet à des gens de s'afficher sur le cul des bus, mais finalement, pas véritablement d'amener grand-chose de plus ou de nouveau à la politique genevoise qui en a bien besoin.
D'accord. Ouais. Quelqu'un veut compléter au sein de la liste 8 ?
Oui, moi, je voulais juste rebondir sur la question, est-ce qu'on se renseignait sur les budgets des autres ou comme ça ? C'est pas difficile, en fait. On n'a même pas besoin de se renseigner. Ils s'en vantent.
D'accord.
N'est-ce pas ? Certains partis okay, que je ne nommerai pas sont très fiers de dépenser près de 1 million pour une campagne. Voilà. Je trouve ça juste scandaleux, surtout quand on prétend prendre la défense des citoyens. Quoi.
Par comparaison, vous savez les chiffres de...
Alors le MCG, ils ont annoncé 800 000.
Ah ouais.
Voilà.
D'un interne de GEM, quand je leur ai dit que leur campagne s'élevait à 1 million... Et il m'a répondu, en toute sincérité, par tête de candidat.
Par tête de candidat.
Non, mais là, je pense qu'il se vantait. Okay, okay. Je pense qu'il s'est vanté, mais on sait très bien que le cul des bus, justement, pour en venir à ce que disait Jean-Claude, c'est pas... voilà, avec un budget entre 10 000 et 30 000, c'est juste impossible de faire ça. Comme les tout-ménages, d'ailleurs. Hein, on Absolument. Peut pas faire des envois tout-ménages. Donc, nous, on fait du porte-à-porte. Je pense que vous faites la même chose pour déposer les flyers dans les boîtes aux lettres, etc., etc.
D'accord. Encore un argument concernant le financement de la liste 8, et puis ensuite on passera à la liste 13.
Donc au mois de janvier, le budget total pour au mois de janvier, il y avait peut-être 11 listes d'inscrites, était de 3,5 millions. Maintenant, il y a les trois partis de l'extrême droite, le MCG, le Genève En Marche et l'UDC, qui à eux, en début janvier, avaient 1,5 million de budget à eux trois. Ce qui fait quasiment presque la moitié du budget global. Maintenant, Zacharias aurait remis 1 million pour Genève En Marche. Ça veut dire qu'ils occupent tout l'espace public, ils noient les boîtes aux lettres sous leur tout ménage, ils noient les sites internet avec leur publicité, ce qui un peu dégoûte un peu les autres, les électeurs éventuels, parce qu'ils se disent « Oh, on reçoit encore un papier de la liste numéro 8, de la liste numéro 13, de la liste numéro 7, et ça va directement peut-être à la poubelle. » Donc, effectivement, il faut absolument avoir une limitation dans ces budgets de campagne, parce que ça devient un peu hollywoodien. Une limitation peut-être raisonnable, peut-être à 100 000, peut-être à 80 000, pour avoir une communication normale. Ensuite, nous, les petites listes, on a aussi un déficit de communication, puisqu'on n'a pas les moyens de communiquer, en tout cas visuellement, comme ces gros partis. Donc, il faudrait peut-être aussi réfléchir à un temps d'antenne sur nos médias qui soient égaux par tous les partis.
Merci beaucoup.
On va prendre la suite.
Voilà, on passe à la liste 13.
Liste 13, égalité et équité. Nous, effectivement, on a un point spécifique dans notre programme qui s'appelle transparence. Alors, il n'y a pas que la transparence des frais de campagne, on a la transparence d'autres institutions et d'autres investissements, notamment les investissements du canton de Genève ou le fonctionnement de la CPEG. Pour nous, c'est très important. On a un budget de, en fait, pour l'instant, 7 700 francs. Donc, on s'en vante aussi, mais si vous voulez, ce n'est pas tout à fait la même chose. On n'a pas du tout les moyens de mettre des affiches sur le cul des bus, justement. Et effectivement, j'aime l'argent, apparemment. Avec Zacharias, dont vous parliez juste avant, c'est quand même... Il est à savoir que c'est un spéculateur immobilier, ce sera l'un des sujets qu'on développera après. Et effectivement, il a un sacré budget à cause de ça. On va dénoncer, on est là pour ça. Hein.
Oui, absolument.
On prône la transparence, on prône la vérité, donc
plus
on y va.
Plus Zacharias pour y aller, parce que...
Je ne me suis pas intéressée au budget des autres listes. Mais nous, c'est vrai qu'on y va avec nos petits moyens. Moi, c'est ma maman qui a prêté les 5000 francs de départ. Et Gérard a assuré pour les affiches et puis les impressions. Et puis le plafonnement des frais, justement, pour avoir justement un semblant de démocratie, un semblant d'équité, d'égalité, de départ, des chances pour être connu à égalité de tout le monde. Parce qu'effectivement, sinon, on garde les mêmes partis qui décident, qui sont dans le système, qui alimentent le système, dirigés pour nous. Et nous, on reste des inconnus. Et on reste impuissant. Donc changeons ça, plafonnons et faisons de la transparence sur tout ça.
Très bien. Merci beaucoup pour la liste 13, Chloé. Qui veut prendre la parole pour la liste femme, la liste 7, c'est Valérie Langer.
Oui. Alors en ce qui concerne la liste femme, on a un budget de 10 500 francs pour l'instant, dont 5 000 ont été prêtés. Il faudrait avoir un budget de 35 000 à 50 000 francs pour pouvoir environ payer toutes les heures de travail bénévole qui ont été accomplies par un certain nombre de personnes, avoir un directeur de campagne, pouvoir faire de la communication exactement comme les autres, ce que viennent de mentionner en fait nos collègues. Donc évidemment que ça soulève la question de la transparence et des investissements en politique, parce que alors comment est-ce qu'une liste qui a 10 500 francs de budget et un nombre incalculable d'heures non payées par les bénévoles qui s'y sont investis peut rivaliser avec effectivement des personnes de GEM qui vont pouvoir investir visiblement plusieurs millions, on peut le dire, dans une campagne électorale. Donc pour assurer la transparence en politique et l'équité des chances et la représentation citoyenne, il serait vraiment important que les budgets de campagne soient plafonnés et contrôlés et qu'il y ait plus de transparence.
D'accord. Alice Rondecker,
oui, prend la parole. Et puis je rajoute juste quelque chose, c'est que cette contrainte financière nous pousse à aller voir les gens bêtement. Du coup, on fait énormément de social et on en parle autour de nous. Je pense que cela aussi nous pousse à aller voir beaucoup plus les gens. Du coup, pour mieux les représenter et aussi de pouvoir un peu surfer sur cette vague de mouvements citoyens pour justement discuter autour de nous avec des gens qui se désintéressent de la politique et en leur parlant en face à face, on leur montre que la politique, ça vit et c'est maintenant.
Absolument. Pourrait-on, Valérie, encore un mot ? Oui.
Ouais, je pense qu'avec avec 35 000 francs, on peut faire une magnifique campagne électorale et être au proche des gens. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas besoin de millions pour ça.
C'est encore une somme très raisonnable. Ouais. Pourrait-on imaginer que justement les partis dits riches, PLR, tout ça, eh bien, fassent un fonds commun et donnent un peu d'argent pour que si on est vraiment proche de cette démocratie dont on rêve tous ensemble et un peu utopiste comme ça, eh bien, un fonds commun permettrait à tout le monde de pouvoir puiser dedans selon justement la force financière de chacun des groupes de citoyens finalement. Parce que tout ce que vous faites là, eh bien, ça n'est pas dans une logique personnelle. C'est le sens commun, c'est la chose commune. Un financement, en tout cas, une aide au financement qui soit une aide collective pourrait, pourquoi pas, émerger. En tout cas, on peut rêver. Concernant le temps d'antenne, alors actuellement, si j'ai bien compris, le temps d'antenne n'est pas du tout réparti de manière équitable. Est-ce que vous aimeriez vous exprimer par rapport à ça concernant les relais médiatiques dont vous seriez... qui vous relayerait ou justement qui ferait une forme d'ostracisme que vous auriez constaté. Je ne sais pas si quelqu'un de vous aurait envie de s'exprimer là-dessus. Alors, liste 8, on y va.
Alors, oui, moi, je tiens à remercier vraiment chaleureusement vous, en l'occurrence, évidemment, mais l'Aimant Bleu. Mmh. Parce que l'Aimant Bleu a fait un travail extraordinaire où, franchement, je pense qu'on est tous également représentés. Toutes les listes sont bien représentées. Pascal Descaillet, en l'occurrence, qui a fait ses visages de campagne et ses yeux dans les yeux, etc., etc. Je veux dire, et je pense qu'il y a un travail magnifique qui a été fait par l'Aimant Bleu. Maintenant, on attendrait un petit peu plus de la RTS. Merci.
D'accord, donc ça c'était le mot de la liste 8.
Pour la liste... Ah pardon, je vais me permettre de prendre la parole pour la liste 13. Allez. Alors effectivement, Pascal Descaillet, c'est un des seuls qui nous donne un peu la parole. Par contre, il ne nous a pas invités... la parole visuelle. Toi, tu as toujours été un hôte de choix et on garde le contact de toute façon. Mais par rapport à Geneva Chaud, on n'a pas du tout été contacté par les membres quand même. Puis effectivement, la RTS, alors silence radio absolu. Ouais. La Tribune a réussi à nous oublier pour un article qui parlait des valeurs partagées avec les lecteurs, que le PLR représenterait les valeurs du peuple. Alors j'aimerais bien voir ça. Je pense qu'ils appartiennent à ta média, puis ta média doit avoir des petits liens avec tous ces partis. Mais bon, parenthèse fermée. Ils nous ont oublié aussi pour... En tout cas, on a donné une interview il y a à peu près 3 semaines maintenant à la Tribune et l'article n'est bizarrement pas encore paru. Donc on a des petites censures comme si par-ci, par-là. Je me demande pas vraiment pourquoi, mais...
D'accord. OK. On a pris bonne note, en tout cas. La liste femmes.
Oui, alors Jacqueline Richard-Iverlon pour la liste femmes. Alors nous, on a eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que le fait, notamment, qu'on se présente dans une liste exclusivement féminine a mis, comment dire, un peu en exergue cette forme nouvelle, bizarrement nouvelle pour moi. Mais effectivement, le fait de présenter que des femmes a attisé la curiosité des médias dans la plupart des temps. Donc on a eu un assez bon relais pour dire que c'est un groupe vraiment qui débute et qui a très peu de moyens. Effectivement, on est allé à l'Aimant Bleu, soit à visage de campagne, qui a fait 8 portraits, sauf erreur, sur les 19 candidates. Et on est allé à Genève Chaud également. Après, c'est vrai qu'on peut se poser la question des médias en général. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas mis le petit autocollant sur ma boîte aux lettres, pas de publicité à dessein, parce que tout à coup, j'aime bien lire tout ce qui m'échapperait autrement. Et je reçois notamment le journal Tout l'Immobilier, où je regarde des portraits de candidats au Grand Conseil. Et effectivement, je dirais que par édition du journal, il y a à peu près... C'est une page entière avec une photo, hein, donc quand même. Il y a 5 ou 6 portraits par édition du journal. Et clairement, il me semble qu'on a présenté beaucoup de candidats de GEM, beaucoup de candidats du PLR, beaucoup de candidats du MCG. Et peut-être sur les 6 portraits, il y aura un portrait peut-être de solidarité, etc. Nous, on ne nous a jamais approchés. Il ne me semble pas avoir vu aucun des candidats des autres groupes qui est rassemblé aujourd'hui. Voilà, juste pour préciser ça.
Non, tu fais bien. Alors, ce qu'on observe en tout cas là, c'est que la RTS, typiquement, là, selon vous, elle ne fait pas complètement son travail, pourrait-on dire, Alice Rendegain.
Et puis surtout, après cette campagne Nobilag,
voilà,
c'est un peu
justement.
Décevant. Oui. Parce qu'on était tous contre.
Voilà, c'est ça.
On a un intrus parmi nous.
Alors, pardon, je reprends. Oui. Donc Jacqueline Richard-Iverlon pour la liste femmes. Nous, on a eu vraiment beaucoup de chance parce qu'effectivement, il y a un petit sujet qui a été fait, qui a nommé petits sujets qui ont été faits et qui ont nommé la liste femmes, justement.
D'accord. Je vous propose... Ah, pardon, côté Jean... liste 8... Pardon, Jean-Claude.
Oui, Jean-Claude Dr. Stuhl, oui. Liste 8. Je voulais juste rajouter pour le temps média, si vous voulez. Il me semble qu'on était à 600 et quelques candidats pour le Grand Conseil. Donc c'est vrai que 600 personnes, ça fait vite, 620, ça fait beaucoup de personnes donc ça, et ça fait beaucoup de temps. C'est vrai qu'on ne peut pas peut-être prétendre à tous faire pareil parce que ça serait juste, ça me semble difficile. Mais en tout cas, je trouve que les listes, elles ne sont pas aussi énormes que ça. Je crois qu'il y a 13 listes. Oui. Et puis, les 13 listes devraient pouvoir avoir, au Grand Conseil, hein, j'entends, devraient pouvoir avoir le même temps, en tout cas un espace suffisant partout dans tous les médias, que ce soit radio, TV ou presse écrite. Et puis, pour l'instant, en tout cas, moi, je n'ai pas vu une égalité de traitement sur ce plan-là.
Voilà. Oui, Chloé.
Justement, ça m'inspire 13. Quelque chose, c'est que 100 divisé par 13, ça fait 7,5. Donc, si tout le monde avait un 13e des suffrages, on serait tous au Grand Conseil.
Voilà. En tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est d'observer le souci d'équité qui surgit parmi ces 3 listes citoyennes. Et ça, c'est important. Et je pense que les électrices et électeurs l'auront entendu. En tout cas, je l'espère. Je vous propose qu'on passe...
Je voulais Gérard juste ajouter un tout dernier élément. La médiatisation a impliqué qu'un certain nombre de listes proposent des personnes au Conseil d'État. Et ils l'ont fait un peu pour apparaître doublement dans les médias. Et quelque part, c'est un peu artificiel. Surtout qu'on est dans un premier tour, et un premier tour qui finalement ne vaut pas grand-chose parce qu'il faudra un deuxième tour. Et quelque part, ça brouille les pistes. Et je trouve que le fait que ça soit en même temps pose problème. Et ça serait une revendication de séparer le Conseil d'État du Grand Conseil.
Le législatif et l'exécutif,
voilà,
au moment des élections.
Pour des questions, ouais, médiatiques, entre autres.
C'est absolument. Je vous propose qu'on passe au troisième petit argument que je vous proposais en entrée en matière. Ok, le suivant, l'argument, la parité dans la représentation. Vous avez toutes et tous constaté dans les anciennes moutures du Conseil d'État la disparité, justement, des composants, des entités qui le composaient. Alors, qu'aurez-vous à dire par rapport à ça? Je propose de recommencer par la liste 8 pour Genève. Alors, la question, c'est concernant la parité au Grand Conseil, est-ce que cela fait partie des programmes ou en tout cas d'un questionnement à chacune de vos listes?
Alors, je ne pense pas que ce soit un questionnement particulier. En tout cas, chez nous, ça s'est fait un peu par hasard. Mais c'est vrai que je me suis penchée sur la question de la parité homme-femme au sein des listes actuelles. Et j'ai... Alors, en moyenne, les listes de gauche ont environ, c'est vraiment une moyenne, hein, 40%. Voire un peu plus de femmes, sauf le Parti socialiste, qui en a nettement moins, puisqu'ils sont à peu près 32%. Ce qui s'explique aussi, je pense, certaines listes du fait, le Parti socialiste en fait partie, du nombre de candidats qu'ils présentent. Je veux dire, qui est juste hallucinant. Quand on prend le MCG, ils ont 100 candidats sur leur liste. C'est juste hallucinant. Ça aussi, on devrait peut-être faire une limite du nombre de personnes qu'on présente, parce que là, ça devient ridicule. Voilà, donc ça, c'était mon coup de gueule. Et puis alors, donc les listes de gauche. Et puis ensuite, les listes de droite. Alors là, bah, on arrive dans des moyennes de 20% et en dessous pour l'UDC. Donc l'UDC, je crois que c'est les plus mauvais élèves, avec quelque chose comme 17% de femmes sur leur liste.
D'accord. Merci. On complète encore. Joël Flac, merci, pour la liste 8 pour Genève.
Oui, la parité homme-femme, évidemment, dans l'idéal, ce serait magnifique. Mais enfin, il faut aussi qu'il y ait autant de femmes que d'hommes qui s'investissent dans un parti ou dans une liste. Je ne sais pas si c'est le cas. Et puis ensuite, la voix est aux électeurs.
Tout à fait.
À compétence, évidemment, à compétence égale, etc. Voilà.
La liste 13, qui est-ce qui veut...
Je crois qu'il y a Jean-Claude qui veut encore dire quelque chose.
Mais bien entendu,
je suis ses yeux.
Voilà, Jean-Claude Ricachetel.
Merci. Oui, la parité, évidemment, idéalement, ce serait bien. Mais on parlait de l'UDC, mais vous savez, à l'UDC, et madame est à la maison. Et donc, on peut pas être au foyer et au Grand Conseil. Non, l'idée, idéalement, oui. Je crois que nous, on doit être dans la parité ou quelque chose de ce type-là, la liste 8. Mais je pense que c'est important de sensibiliser à chaque fois qu'on le peut, de dire que que ce soit les femmes ou les hommes doivent s'investir dans la politique. Nous sommes quasiment à part égale dans la société. Il n'y a pas de raison qu'on ne s'investisse pas l'un et l'autre à part égale dans les affaires politiques. Alors c'est vrai, c'est malheureusement pas le cas encore, mais je pense que ça viendra. Maintenant, faire quelque chose en plus pour promouvoir une égalité, moi, ça me semblerait une pseudo-égalité. Moi, ce que j'aimerais, c'est que justement, il y a des femmes qui s'investissent véritablement dans la politique. Et la liste femmes, ben, je dirais que la parité, elle est de 100% là. Hein. Non, c'est vrai, c'est bien, c'est une bonne idée. Mais c'est bien de s'investir dans la politique, c'est ça que je voulais dire.
Très bien. Elles s'exprimeront après. La liste. Alors, femmes, liste 13.
Pour nous, égalité, équité, le nom parle de lui-même. Pour nous, la parité, c'est important. On est d'ailleurs les deuxièmes derrière la liste femmes. À 53,3%, on a 8 femmes et 7 hommes. Et c'est vrai qu'au début, quand on a mis en place cette liste, moi, je me sentais un petit peu seule dans les femmes et j'avais recruté Delphine à ma droite. J'étais ravie qu'elle nous rejoigne. Et c'est vrai qu'on a eu du mal à trouver des femmes qui ont envie de s'investir en politique. D'ailleurs, je suis admirative et vraiment devant votre mobilisation autour de ce projet de liste femmes. Vraiment, c'est très bonne chose que ça existe. Et pour moi, c'est très important que les parlements, les instances politiques soient représentent vraiment la population.
Ça, c'est un point de votre programme dans la liste 13 égalité.
Oui, c'est le premier.
J'ajoute une chose. Oui. L'égalité ne veut pas dire qu'on est absolument les mêmes. Les femmes ont des besoins, ont des problématiques. Quand elles sont présentes, elles peuvent les amener. Et quelque part, ça veut dire que si elles ne sont pas présentes, ces problématiques manquent dans le débat citoyen à l'intérieur d'un grand conseil. Et c'est bien pour cette raison-là, ce n'est pas uniquement une question de jalousie ou je ne sais pas quoi, c'est vraiment une question de faire apparaître les problématiques des femmes et puis d'avoir cette voix-là à l'intérieur d'un grand conseil. Je pense que c'est essentiel.
Alors, c'est très bien de conclure.
Gérard, c'est vraiment l'homme le plus féministe que je connaisse, donc vraiment chapeau. Et puis, je voulais aussi ajouter que peut-être on pourrait se fier maintenant comme indicateur pour savoir si une liste ou un parti est démocratique en faveur des citoyens et des citoyennes, justement le degré de parité qu'ils présentent.
Ben oui, ça pourrait être un chouette indicateur, effectivement. En tout cas, voilà, la liste femmes, c'est bien que vous fassiez, que soyez à la fin de ce tour de table concernant la parité, puisque vous avez beaucoup de choses à dire dans votre programme concernant ces problématiques des femmes et de l'humanité, certes, mais des femmes en particulier.
Oui, absolument. Donc actuellement,
c'est Alice Rendeguer qui répond.
Donc Alice Rendeguer pour la liste numéro 7. Actuellement, au Grand Conseil sur les 100 sièges, nous avons 26 députés. Actuellement, à Genève, nous sommes 51% de femmes. Je veux dire, c'est absolument parlant, nous sommes la majorité. Hein, et en fait, nous sommes traités comme une minorité, et c'est ça un grand problème. Mais en règle générale, dans la démocratie, il faudrait que toutes les minorités ou toutes les personnes qui ne sont pas représentées le soient. Et donc, la liste 7 s'engage pour la représentation des femmes en particulier. Et le premier point de notre programme aussi est un point de société. Nous voulons une société sans inégalité, jamais, nulle part. C'est aussi simple que ça. À part ça, nous pouvons saluer les Verts quand même, qui ont des listes à 50-50 et qui sont très ouverts et qui nous soutiennent aussi, il me semble. Et aussi, nous appelons à voter la liste 7, plus de panachés avec des femmes de tous les partis, parce que justement, nous représentons les femmes, donc la majorité de la population. Si on fait avancer les choses pour cette majorité, ça veut dire qu'on fait avancer les choses pour tout le monde, quel que soit le parti politique, quelle que soit la classe sociale. On dépasse justement toutes ces notions et on touche tout le monde.
Oui. Peut-être préciser alors qu'est-ce que vous entendez par panacher les listes, en tout cas ajouter, c'est parce que ça c'est un point qui est sur votre site, c'est un point essentiel, c'est un des points essentiels de votre programme.
Bon, alors on sait que sur une liste, donc on peut présenter 100 candidats, nous on est 19, donc si une citoyenne, un citoyen voulait voter la liste numéro 7, donc la liste femmes au Grand Conseil, elle peut parfaitement compléter cette liste, donc après les 19, il reste 81 sièges, pour un candidat, une candidate. Donc à présent, nous, on invite les personnes à voter surtout pour les candidates parce que la parité nous tient vraiment à cœur, elle est vraiment au cœur de notre programme, on va dire justement pour ces problématiques liées à ce manque de représentativité des femmes, et je précise, des personnes LGBTQI, parce que idéalement, dans notre groupe, on a des personnes qui ont des orientations sexuelles qui ne sont pas hétérosexuelles. J'aurais adoré, et on attend ça vraiment, que des personnes trans, etc., rejoignent le groupe par la suite aussi, pour se faire les porteurs de cette parole-là, qui est alors, en l'occurrence, totalement minorisée. Si les femmes le sont déjà, alors qu'elles sont la majorité de la population, je vous laisse imaginer ce que ça donne quand on est une personne LGBTQI. Voilà.
C'est Jacqueline Richard-Iverlaine qui répondait, et j'aurais voulu t'interroger concernant, peut-être voudrais-tu préciser, même si, bon, pour les auditeurs auditrices de Libre Radio et de Fréquence Banane, a priori, c'est OK, mais quand même rappeler ce que signifie cet acronyme LGBTQI.
Alors, lesbienne, gay, il faut que je me concentre quand même, bisexuel, LGBT, trans, queer et intersexe, voilà. Il y a encore un plus qui vient se mettre aussi, c'est-à-dire que asexualité non définie, mais je ne sais pas si c'est compris exactement dans les intersexes, etc. Moi, je défends cette voie-là parce que les personnes de notre groupe qui sont pas de la même orientation sexuelle que la mienne, qui est hétérosexuelle, et je pense vraiment faire partie des privilégiés dans ce cas-là, justement, parce que le monde est pensé et hétéronormé, on va dire. Voilà. Moi, je les défends parce que dans mon entourage, depuis depuis toujours, il y a eu des personnes, notamment à orientation sexuelle différente, il y a des personnes trans, etc. Et je me tiens à faire leur porte-parole aujourd'hui. Maintenant, je voudrais juste rebondir sur ce que disait tout à l'heure de deux candidats de la liste pour Genève, tout à l'heure, qui demandaient que les femmes s'investissent plus en politique. Comme je le disais lors de ma présentation, j'ai l'impression d'être une observatrice et une femme de terrain. Je me suis engagée en politique, comme je disais, parce que tout à coup, c'est ma vie qui m'a fait prendre conscience. Donc, c'est vraiment par l'expérience que je suis arrivée à cet engagement. Je n'aurais pas pu m'engager en politique il y a 10 ans. Mes enfants étaient trop jeunes. C'est bête, je déborde d'énergie. Je suis quelqu'un qui peut faire les choses très rapidement. Je m'investis dans mon travail, je m'investis dans ma vie sociale. Je ne veux pas être interrompue, je veux finir ce que je suis en train de dire. Je n'aurais pas pu le faire. Maintenant, mes enfants ont grandi. Je trouve ce que je veux dire par là, c'est que tout est lié. Je ne veux pas être la seule responsable de cet état de fait. Je ne suis pas la seule responsable. Cette chose-là, elle est structurelle. Le monde du travail notamment, est pensé par les hommes, pour les hommes. Il ne l'est pas pour les femmes. Il n'est pas adapté. Les mesures ne sont pas prises. C'est là-dessus que nous, on souhaite agir. Donc moi, je bondis et je suis extrêmement passionnée là-dedans parce que sans arrêt, dans ma vie de mère, dans ma vie de femme, j'ai été confrontée à cette problématique. J'ai vraiment eu ces problèmes concrets de garde d'enfants, etc. D'un mari qui, lui, travaille à 100%. Donc, qu'est-ce que je fais? Comme je suis artiste-performeur, je travaille par intermittence. Donc, je passe de l'état de femme au foyer à l'état de travailleuse qui a une double vie, parce qu'on peut appeler ça comme ça, entre la vie qu'il y a au foyer et la vie qu'il y a au travail. Malgré toutes les discussions qu'on peut avoir, malgré toute la bonne volonté de mon compagnon, on a reçu une éducation qui nous laisse dans nos marques et qui fait que la plupart du temps, je m'occupe à 80% de ce qui s'occupe du ménage. Et je ne suis pas la seule. Et je suis consciente. Et j'aimerais que ça change. Donc, c'est vous dire si quand on n'a pas cette conscience-là, quand on n'a pas les moyens que j'ai, parce que j'ai reçu un niveau d'éducation, comme je disais, je suis favorisée, je suis blanche, je suis hétéro, voilà, et j'ai un bon niveau d'éducation, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, et ça, justement, c'est au cœur de nos préoccupations. Merci.
Alors, merci beaucoup, Jacqueline. Alors, j'aimerais
quand même répondre.
Oui, juste la parole, je la reprendrai à chaque fois, c'est pour modérer bien. Ouais. Effectivement, c'est juste que les problèmes d'intersectionnalité, nous allons également en parler, on en est extrêmement sensible, effectivement, à Libre Radio, et on reviendra certainement là-dessus. Joël Flax, à toi la parole, bien entendu, pour la liste 8 pour Genève.
Merci. Alors, j'aimerais quand même répondre à ce que vous avez dit, gentiment, Jacqueline, voilà, tout à fait. Donc, encore une fois... Moi, j'admire beaucoup le courage d'avoir monté votre liste uniquement femmes. Bon, c'est quand même pas de la parité, puisque vous êtes 100% des femmes. Ben oui, ben écoutez, il faut le dire. Ensuite, j'aimerais quand vous aussi corriger que les Verts n'ont pas la parité à 50%, mais ils sont à 38%. Voilà, donc je ne sais pas si vos informations sont tronquées ou voilà. C'est pas 50%. Ensuite... Vous parlez de femmes qui élèvent les enfants et blablabla et, blabla et pas de politique. Moi, j'ai élevé 2 enfants. Oui, j'ai travaillé. Ben voilà, donc je ne vois pas, je n'étais pas coincé à la maison, donc je n'ai pas compris ce que vous avez dû dire. Et j'ai des tas de collègues ou d'amis qui aussi sont des femmes monoparentales, hommes, qui élèvent leur enfant ou les enfants. Donc je ne vois pas la différence entre des personnes, des femmes qui doivent ne pas travailler parce qu'il y a des enfants et puis que des hommes qui ont des enfants doivent travailler. Voilà, donc je ne comprends pas.
Voilà, je crois qu'il y a une réaction encore ici, Valérie Langer, et puis ensuite pour la liste femmes, et puis ensuite Delphine Frodo pour la liste 13. C'est Delphine qui commence.
Je reprendrai les propos en fait de Jacqueline et la question. Je crois que Jacqueline, elle n'a jamais parlé de ne pas travailler ou de ne pas pouvoir travailler en s'occupant des enfants. On parlait de notre engagement politique et sur le terrain, parce que c'était une femme de terrain, mais d'aller jusqu'au bout, en disant tout simplement que oui, déjà, parce qu'on est dans une société encore... fortement dirigée et pensée par les hommes, avec ce côté patriarche, que oui, il y a toute une éducation à faire. Beaucoup de femmes ont énormément d'idées, mais n'osent pas se lancer, sous prétexte qu'elles vont être cassées, en fait, par des gros machos de la politique. Ça existe encore, je suis désolée, mais quand on voit un Stoffer, à part faire la bimbo, on n'a pas envie de parler avec cet homme. Donc, il y a quand même beaucoup de femmes qui ne s'engagent pas, mais qui nous poussent à le faire, mais c'est dur. On parlait des enfants. Moi, la mienne, elle a 12 ans aujourd'hui. C'est seulement maintenant que je peux prendre du temps. Parce que la politique, c'est souvent le soir aussi. C'est faire des débats, des conférences. Oui, c'est au quotidien, mais c'est le soir. Quand, comme moi, famille monoparentale, qui garde ma fille si on n'a pas les moyens d'avoir quelqu'un à la maison ou de prendre une nounou ou même une fille au père, enfin une petite jeune, il faut encore avoir les heures pour la payer de façon décente. Je ne vais pas faire de la surenchère à la baisse.
C'est la même chose que pour des hommes. Des hommes aussi ont des enfants.
Non, bah parce que, mais parce qu'encore aujourd'hui, 80% des hommes, mais c'est encore 80% de femmes, encore, si ce n'est plus. Oui, il y a encore des hommes, comme il y a des hommes qui se font battre. On va peut-être pas revenir sur le discours.
Vous venez dire que d'élever des enfants, c'est comme se faire battre. Voyons, qu'est-ce que
non, mais on est juste en train de dire que ça existe aussi.
Mais les choses changent, il y a des hommes. Les choses changent.
On va pas faire le gros débat, c'est juste pour dire que dans le discours de Jacqueline, je crois qu'en aucun cas, elle a dit que, ou elle comparait que les hommes, ils ne pouvaient pas faire. On disait juste que oui, l'éducation se fait essentiellement par les femmes et l'éducation qui apporte le tout, c'est-à-dire non seulement les tâches ménagères, mais l'éducation de l'enfant, parce qu'après on nous plaint que les gamins font n'importe quoi, mais voilà, c'est pas que rentrer puis d'être sévère à la maison, il y a toute une éducation, et oui, ça prend du temps. Ouais. Mais il ne faut pas dire que...
Alors, moi, j'aimerais
je
ne
sais pas. Moi, je
j'aimerais juste...
Valérie Langer qui répond. Et puis, juste encore une chose, on va terminer avec cet argument par cette intervention-là. Après, on pourra compléter... Alors, encore une intervention du côté de la suite après Valérie.
Non, c'était
elle va,
moi.
Elle va, voilà, elle va s'exprimer, alors. Puis ensuite, ce sera vers vous. Et ensuite, on fera une petite pause musicale, hein, parce que jusqu'à présent, vous étiez extrêmement bien discipliné, mais faites attention, parce que quand on parle deux en même temps à la radio, ça devient inaudible. Et sachez que là, c'est les électrices et les électeurs qui vont se faire une idée selon ce que vous direz. Donc, plus vous êtes audible, plus vous êtes crédible.
Voilà.
Valérie.
Alors, je pense qu'on a dit, je vais vous rappeler que tout à l'heure, on a dit qu'aujourd'hui, au Grand Conseil, il y en avait 74 hommes pour 26 femmes, non ? Si je ne me trompe pas. Donc, on a de la marge en termes d'engagement masculin, engagement féminin. Je pense qu'on n'a que 26 femmes pour les raisons qui ont été très bien évoquées par mes collègues tout à l'heure. La difficulté à s'engager dans un Parlement qui est relativement machiste. Et puis, toutes les contraintes des femmes. Vous disiez tout à l'heure, Chloé disait tout à l'heure, je suis admirative qu'on ait monté une liste femmes. Ce n'est pas tout simple de monter une liste femmes. Ça, on a monté une liste femmes aussi parce que c'était des femmes et que les femmes peuvent comprendre les problématiques des femmes. Ça n'enlève rien aux problématiques des hommes. J'ai le plus grand respect pour les pères célibataires et les familles monoparentales masculines. Mais alors maintenant, si on va regarder les nombres, on voit qu'il y a encore beaucoup de travail pour atteindre la parité et une représentation égale en politique à Genève. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut centrer le débat et pas sur le fait que peut-être les femmes devraient faire des efforts pour s'engager en politique. Je pense qu'elles font autant d'efforts que les hommes et que tout le monde a ce travail à faire, hommes, femmes.
Brigitte Perrin pour la liste.
Alors moi, je vous rejoins. Jacqueline, c'est ça ? Donc moi aussi, je me suis engagée sur le tard. Moi aussi, j'étais mère, enfin, etc., etc. Par contre, ce que je veux adoucir, c'est que Joël, il se bat pour des idées. Et quand on pose le débat homme-femme, peut-être qu'on perd les idées de vue. Voilà.
Je rebondis juste là-dessus. Les problématiques sont toujours binarisées. C'est pas moi, c'est pas ma volonté. Simplement, je vois que parce que je suis une femme, c'est pas parce que je suis une femme que je vois les problèmes. C'est les problèmes qui s'imposent à moi en tant que femme et pas en tant qu'homme. Donc, il faut juste changer. En fait, le paradigme est juste différent par rapport à ça. C'est juste ça que je voulais dire.
Me permettre Chloé, d'intervenir, je pense que leur démarche à la liste femmes, c'est d'équilibrer justement cet endroit qui est absolument pas du tout paritaire. Donc pour l'instant, il faut rajouter beaucoup de femmes pour que ça devienne paritaire.
Je crois qu'on a bien saisi quels étaient les enjeux et les desseins de la liste femmes. Je vous propose une petite pause musicale, on va se détendre un petit peu, boire un coup d'eau. Non, mais c'est très bien que ce soit animé, mais comme je vous le dis, voilà, la chose qui est importante pour nous, c'est que ce soit surtout audible. Petite pause musicale, deux chansons, et on revient juste après ça avec les arguments moteurs de chacune des trois listes. C'est parti.